plus. Retrouvez tout de suite l'équipe de la demi-heure sport.
Bonsoir à tous, il est 19h22, vous êtes en direct sur Liberté FM, je suis ravi de vous retrouver pour la 10e saison de la demi-heure sport. Cette émission est toujours réalisée depuis 10 ans par son président. Comment il va, Cyril?
Je pensais partir en vacances et même avoir à la retraite, mais je me rends compte que t'as encore besoin de moi.
Eh ouais, exactement, tu vois, 10 ans après, je sais toujours pas faire la technique de mon émission, donc je suis bien content de t'avoir.
Pas espoir.
Allez, ce soir on attaque dossier chaud de la demi-heure sport. D'ailleurs, il avait déjà fait la rentrée avec nous la saison dernière. C'est Jonathan Blondy qui est avec nous, président du district du football de la Dordogne. Vous savez que la demi-heure sport accorde une page importante au football départemental et régional. Et du coup, il était pour nous normal de commencer cette nouvelle saison avec le patron du football départemental. Comment il va, Jonathan?
Eh bien, en pleine forme.
En pleine forme.
Ravi de te voir également en pleine forme, a priori.
Oui,
donc,
oui.
J'espère que les pistes se sont bien passées, cyclisme,
cet été. Ça s'est très très bien passé. Merci à toi. Effectivement, on va revenir sur l'actualité chaude parce qu'il y a beaucoup d'actualités au niveau du football. On va bien sûr parler. D'un sujet qui nous tient à cœur, c'est bien sûr la Coupe de France qui a eu lieu le week-end dernier avec 7 clubs de Périgord qui se sont qualifiés. On parle de Mussidan, on parle de l'AS Neuvic Saint-Léon, de Rouffignac, le petit poussé de D2, bien sûr du club phare du département Trélissac, mais aussi Boulazac, le club qu'on reviendra aussi tout à l'heure, le BPFC, et bien sûr le FC Limeuil. Qu'est-ce qu'il en pense le président de voir ces 7 qualifiés qualifiés au quatrième tour de Coupe de France et qui en plus auront les maillots?
On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, comme on dit souvent. J'aurais préféré en voir encore plus, bien évidemment, pour représenter le département. Mais aujourd'hui, voir notamment Rouffignac, club de D2, qui va être notre petit poussé local, c'est une belle aventure pour eux, humaine. Voir Limeuil, Neuvic, Mussidan, des clubs de D1 aujourd'hui qui sont également... au quatrième tour, c'est chouette. Maintenant que la fête soit belle pour ce quatrième tour, j'ai presque envie de dire, je préférais que pour chacun d'eux, ils puissent rencontrer un gros et à faire une belle fête du football amateur plutôt que de se rencontrer entre eux.
Hein, ils pourraient avoir des derbys périgourdins du coup.
Ça pourrait. Voilà. Mais oui, c'est une belle réussite d'avoir autant de clubs sur le quatrième tour. Sans oublier, bien évidemment, nos clubs phares que sont Trélissac, Boulazac et Bergerac, qui sont au rendez-vous comme chaque année presque, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi important que ces clubs-là soient les locomotives du département.
On va en revenir justement du club de Bergerac. Mais vous le savez, la demi-heure sport, c'est l'émission où c'est que vous pouvez poser des questions en direct à notre invité. Ça, vous l'avez bien compris. Vous allez donc sur le fil de l'actualité de la DHS et vous pouvez poser d'autres questions à votre invité. Là, connecté, il y a José Da Silva qui dit bonjour à tous. Il y a Bruno Rongiras qui dit bonjour à tous et plaisir de vous retrouver. Voilà, les arbitres de Dordogne derrière toi.
Bruno et José qui sont des fidèles de la demi-heure sport également.
Exactement, ils sont là au rendez-vous depuis de nombreuses années. Et Caroline, les Girondins pour Rock. Ah oui, donc ça commence déjà à commenter par rapport à Rouffignac qui aimerait recevoir les Girondins.
Je souhaite honnêtement à aucun club de Dordogne au tirage de prendre les Girondins de Bordeaux parce que pour des raisons de sécurité, malheureusement, je ne suis même pas sûr que la Dordogne pourra accueillir une telle rencontre pour des raisons de sécurité. On l'a vu l'an dernier avec les Girondins qui avaient dû jouer un de leurs matchs de coupe à huis clos sur le terrain synthétique depuis moyen. Je le souhaite à personne, moi, honnêtement. Hormis peut-être un club comme Trélissac qui sera en capacité peut-être de pouvoir les recevoir à Firmin, mais malheureusement, le contexte de sécurité autour des Girondins de Bordeaux fait qu'aujourd'hui, souvent, on a la préfecture ou on a les autorités publiques qui sont pas très friandes d'un tel événement à l'heure actuelle, malheureusement. Ouais.
Surtout pour la protection des joueurs.
Protection des joueurs, protection du public, des supporters, c'est un tout. Hein, donc, au demeurant, les supporters girondins, j'ai rien contre eux, hein, bien loin de là. Hein, mais
bien
c'est
sûr.
Juste qu'aujourd'hui, en fait, le contexte qu'il y a autour du club fait que parfois, c'est compliqué de les recevoir. Et je ne suis pas certain que ça soit une belle fête de devoir délocaliser pour un petit club. Voilà.
Ça a fait l'actualité de cet été. On parle bien sûr du Bergerac Périgord Football Club qui s'est retrouvé de National 2 en R1 et qui se retrouve aujourd'hui en R3, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas si c'est encore il peut encore avoir un recours, hein, Jonathan.
Aujourd'hui, ils ont fait le choix d'aller devant le CNOSF, une position sur laquelle je comprends aujourd'hui. Encore une fois, moi, je suis pas
ta
là.
Ma position par rapport à cette situation.
Ma position, je m'en tiens au soutien public que j'ai apporté au club et que l'ensemble de mon équipe du comité directeur a apporté au BPFC. On ne remet pas en cause le contexte financier et comptable du club parce que ce n'est pas notre rôle. On a cité d'ailleurs personne, hein, dans ce dossier, hein, que ça soit l'équipe actuelle, l'ancienne équipe, etc. Nous, c'est pas notre rôle.
Ouais.
Ça me regarde pas, j'ai presque envie de dire. Par contre, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que sur la forme, voilà, sur la forme du dossier,
ouais,
je suis un petit peu plus sceptique sur la façon dont le BPFC a connu son été et notamment la sanction de début août qui s'est jouée en 48 heures d'une rétrogradation de R1 en R3. C'est là où je pense qu'il y a eu une petite maladresse de la part de la Ligue sur ce volet, voilà, sur la forme. Voilà, je pense que... mais je m'en suis exprimé, hein, avec François Grenet, qui les relations sont excellentes, et j'ai expliqué ma déception, voilà, que sur la forme, il fallait que juridiquement, on fasse les choses avec plus d'anticipation. Et je pense que François l'a entendu, parce que c'est quelqu'un d'intelligent, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un dossier en cours, toujours, puisqu'ils ont fait appel au CNOSF. Donc,
sur cette situation-là, tu t'es pas caché publiquement, tu es vraiment monté au créneau là-dessus, il n'y avait pas...
Quand on lit,
ça te tenait à cœur.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est au-delà de l'intérêt du BPFC, c'est l'intérêt du football départemental. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 450 licenciés, c'est des installations, c'est des jeunes, c'est des féminines, c'est du foot adapté, c'est de l'inclusion. Le BPFC est sur de nombreux sujets, comme d'ailleurs le TAPFC, que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs, je serais monté au créneau, au même titre que pour Boulazac et au même titre que pour n'importe quel club du département. Mon rôle aujourd'hui, c'est de protéger l'intérêt départemental du football amateur. Voilà. Donc c'est normal de défendre un de mes clubs.
Pour les gens là, qui nous écoutent, quelles sont les conséquences de voir un tel club descendre et quelles sont les conséquences directes pour le district ?
Les conséquences directes pour le district, c'est qu'il a fallu qu'on intègre l'équipe réserve du BPFC dans nos championnats de district. Et qu'il fallait... ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun de mes prédécesseurs n'a connu une telle situation sur le département. Aucun. Donc on ne peut pas dire « Ah, moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça ». Aucun de mes prédécesseurs n'a connu une telle situation sur une situation d'un club de National 2 qui est rétrogradé jusqu'au niveau R3. Et que fait-on du coup de l'équipe réserve ?
Ouais.
Donc il
n'y
avait pas de jurisprudence au niveau départemental. Donc les répercussions, c'est qu'il a fallu que nous, on prenne qu'on prenne notre courage à deux mains et qu'on prenne une décision de savoir est-ce qu'on les affecte à la D1, à la D2, à la D3, à la D4. On a fait un choix, je pense, de cohérence. Le BPFC avait une équipe réserve qui était deux niveaux en dessous de leur équipe première. Donc on a fait le choix d'affecter l'équipe réserve à la D2, puisque la première est en R3. Et qu'aujourd'hui, je ne me voyais pas demander à mes clubs de D1 d'être dans une poule à 15. Donc 30 journées, puisque ça veut dire que c'est une grille de 16.
Ouais.
Puisque y a forcément une équipe qui joue contre un exemple tous les week-ends. Et c'était un peu plus facile, on va dire, de l'intégrer à nos calendriers pour de la D2 avec une poule à 13 plutôt qu'une D1 avec une poule à 15. Certains l'ont compris, d'autres un peu moins, mais il fallait qu'on fasse un choix. Et je pense qu'on a dans toutes les solutions qui s'offrent à nous, je pense qu'on a pris la moins pire et pour le club et pour le football départemental.
Et qui aurait eu des conséquences en fin de saison.
Oui, parce que forcément, une équipe de plus en D1, ça veut dire qu'il y aurait eu une descente de plus automatiquement. Là, en les affectant en D2, oui, forcément, il y a une descente dans leur poule, il y aura forcément une descente de plus. Mais étant donné que cette année, on a fait un système de mise à jour de notre système d'accession-rétrogradation avec notamment des play-offs en cas de beaucoup de descente de ligue pour justement qu'on limite les impacts pour les niveaux D1, D2 et D3, on va dire que c'était la moins pire des solutions. Voilà.
C'est-à-dire qu'à la fin du championnat, on va avoir des matchs de coupe.
Potentiellement, tout dépendra. On n'a aucun club de ligue qui descend en D1, il n'y aura aucun match de coupe, qu'il y aura le système de montée classique.
D'accord.
Si on a des descentes de ligue plus ou moins importantes, il y aura potentiellement des play-offs, c'est-à-dire que le premier de chaque poule de D2, par exemple, monte bien en D1, mais il se peut qu'on ait une finale d'accession entre les deux deuxièmes des deux poules pour la montée en D1.
Voilà. D'accord. On continue sur l'actualité chaude. Il y a eu ce week-end, je sais pas si tu as vu, parce que tu as réagi, je pense aussi. C'est le président du but qui a réagi par rapport à sa coach, Essemery Petit, la coach de l'équipe senior de Dubug. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce qui a été fait en termes de réaction ?
Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun dossier qui a été déposé auprès du district, ni à mon attention, ni à l'attention de la commission de discipline. Donc, on va dire qu'il y a des propos sur les réseaux qui ont été tenus. Je peux entendre, en effet, la parole d'un président, mais je suis toujours très attaché au fait de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, y compris au camp adverse, entre guillemets, qui pour l'instant, a priori, ne s'est pas exprimé sur le sujet.
Ouais.
Donc,
la coach qui est hier a refait un démenti sur sa page Facebook en disant calmons-nous.
Oui. Alors, je connais un petit peu Essemery Petit depuis 2-3 ans maintenant. Je pense pas que ça soit quelqu'un de virulente et l'attitude qu'elle tient depuis 2-3 jours de vouloir calmer un petit peu, alors tout en soutenant et en remerciant son président, mais de vouloir calmer un petit peu le jeu,
ouais.
Je pense que c'est une très bonne démarche de sa part. Rien n'a été remonté par aucun des deux clubs aujourd'hui auprès du district. Donc, je ne vais pas dire que je botte en touche, mais je me garde bien d'avoir un certain droit de réserve, justement, pour protéger les deux clubs, parce que je n'étais pas au match, tout simplement. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je suis à l'écoute des deux clubs s'ils veulent échanger avec moi. Ils le savent. Je suis à l'écoute d'Ismery également, mais au même titre que le club adverse. La place de la femme est un volet important dans notre société aujourd'hui, dans le monde du sport. On a fait le choix, au niveau de la commission féminisation, c'est qu'on va créer un club des dirigeantes par Périgord blanc, Périgord vert, Périgord pas. Voilà, innovant pour nous. L'idée, c'est de libérer la parole et de leur permettre justement de pouvoir nous faire remonter des informations de terrain. Donc, j'ose espérer que ce qui a pu se passer le week-end dernier est un épiphénomène, on va dire, et qu'on va aller dans une démarche où les femmes sont respectées dans leurs fonctions. Mais c'est vrai qu'on n'a qu'une seule aujourd'hui entraîneuse féminine sur un public masculin, sur du foot à 11, c'est la seule, Essemery Petit. Donc forcément, tout ce qui est parfois un peu novateur fait peur.
Ouais, ouais. Donc, mais en tous les cas, on défend la place de la femme.
Totalement.
Voilà, au niveau du football. On continue, on a eu des vents. On a entendu ce week-end qu'apparemment, il y a eu un club où ça s'est mal passé. On a entendu parler que du côté de Bergerac, de l'US Lacate, qui a été victime de faits. Est-ce que tu en sais plus ?
Les infos vont vite. oui, alors moi, j'aimerais tout d'abord apporter mon soutien aux dirigeants et aux bénévoles du club de l'US Lacate, puisqu'en l'occurrence, le club n'y est pour rien dans ce qui s'est passé ce week-end.
Ouais, ouais.
Puisqu'on est sur un phénomène hors match, hors terrain, et on va dire entre guillemets dans le quartier à la sortie du stade, quoi, c'est-à-dire à 50 mètres du stade en plus. Donc oui, il y a un dossier en cours, un dossier qui a été pris en charge immédiatement par le district dès samedi soir, puisqu'il y a eu un dossier samedi après-midi sur un match de U17, avec un jeune éducateur adjoint du club adverse qui malheureusement a été pris à partie par un groupe d'individus non identifiés à la sortie du stade.
Et qui n'avait rien à voir avec les équipes qui étaient
exactement.
Là.
Exactement, alors que le match s'est parfaitement bien passé, dans un super état d'esprit des deux côtés. Donc,
la preuve, je crois qu'il n'y avait même pas de carton sur la
rencontre. Non, il s'est passé. Dimanche, Coupe de France, on a notre dossier. Donc, on a pris en charge le dossier dès samedi soir, avec un contact avec la municipalité de Bergerac et avec le club. Et on a eu un rendez-vous d'ailleurs aujourd'hui à 13h. En l'occurrence, puisque le club est parfaitement concerné par ce qui se passe également dans leur quartier. Ils ont besoin d'être accompagnés et soutenus, je pense, à mon sens. Et la municipalité de Bergerac est parfaitement consciente de la difficulté aujourd'hui qui est rencontrée sur la zone. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, parce qu'il y a une commission de discipline qui est totalement indépendante, qui va se réunir ce soir et qui va être amenée à statuer sur les faits, ou en tout cas à prendre peut-être des mesures. Mmh. Donc je me garderai bien de faire un autre état des lieux que celui-ci pour l'instant. Mais attention à ne pas faire de procès d'intention au club de l'US Lacate, qui au contraire, là, pour le coup, n'y est pour rien.
Oui, bon, et voilà.
Qui
a vraiment... C'est bien de le rappeler.
Oui,
hein,
parce que souvent, malheureusement, on vit d'y pendre les gens gratuitement, sans preuve.
On fait des raccourcis.
On fait des raccourcis, et là, je veux surtout pas qu'on fasse un raccourci concernant le club de l'US Lacat, qui, pour le coup, a participé à la réunion aujourd'hui avec la mairie, avec le commissariat, dans une volonté, justement, de trouver des solutions pour qu'eux ne soient pas impactés, parce que c'est pas aux licenciés, aux dirigeants bénévoles d'être impactés par des comportements de jeunes qui ont envie de se défouler sur des gens un peu au hasard. Voilà.
Avant de refermer la parenthèse, hein, c'est dans le début de saison, ça a été un des seuls points.
Oui, aujourd'hui, c'est le seul point qu'on a réellement à gérer. Pour l'instant, bon, il y a eu un match arrêté. Il y a eu un match arrêté sur un match de coupe. Bon, pour une histoire de gifle entre guillemets entre joueurs, mais bon, voilà, on va dire que c'est des phénomènes qui ne doivent pas exister, donc la commission de discipline sera amenée à statuer sur le sujet également. Mais on n'a pas eu de fait grave aujourd'hui depuis le début de la saison. Voilà.
Il y a Bruno Rongias qui dit que c'est pas lui qui a dit quelque chose par rapport à Bergerac.
Non, du tout, mais bon, malheureusement, tout se sait vite, donc je suis pas surpris que tu m'en parles aujourd'hui dans ton rôle. Et moi, tu as ma réponse aujourd'hui de pilote de l'instance départementale. On ne laissera rien passer sur les mauvais comportements, mais on sera très attentif par contre à ce que ça soit les bonnes personnes qui soient incriminées, pas les mauvaises.
Il va peut-être falloir bientôt avoir des armures pour les arbitres.
J'espère pas, mais par contre, vu toutes les innovations qui sont mises en place cette année sur nos matchs et autour du pôle arbitrage, je pense qu'il va y avoir, oui, une plus grande vigilance qui va être portée dans les prochains mois sur notre façon de sanctionner, sur notre façon d'aborder les rencontres et notamment de protéger nos officiels.
On y reviendra tout à l'heure sur les innovations, au niveau de l'arbitrage. Il y a Didier Petit qui dit bonjour. Bonjour Didier Petit, on reviendra sur vous parce que vous nous avez posé une question off. Et voilà. Et puis on a aussi José da Silva qui nous dit félicitations au club ruraux comme Rouffignac, Limeuil, Mussidan et encore Neuvic Saint-Léon. Bravo à eux. Du coup, on continue, on commence un petit peu, on va aller un petit peu sur les nouveautés du district de cette rentrée. Quelles sont les innovations du coup et nouveautés du district?
Il y en a plusieurs. Tout d'abord, la création et la mise en place d'une pause accalmie pour les matchs.
Ouais.
Un carton bleu qui a été remis à l'ensemble des arbitres du district. L'objectif, c'est que sur des moments de tension où l'arbitre sent qu'il en... ça devient un petit peu chaud et plutôt qu'on en arrive à des cartons blancs, des cartons rouges qui ont un impact disciplinaire pour les clubs et financiers, l'idée c'est que une fois par mi-temps, pendant 2 minutes, ils ont la possibilité de sortir le carton bleu pour calmer un peu les choses et les deux équipes se réunissent dans leur propre surface de réparation pour que le capitaine puisse jouer son rôle de capitaine.
Discuter. Ça c'est une innovation, c'est exclusivement la Dordogne qui a ça.
En fait, on a reçu au mois de début août par Anthony Gauthier, donc le directeur technique national de l'arbitrage,
ancien arbitre pro,
qui nous a envoyé en fait un panel pour un projet à horizon 2028. Et nous, on a fait le choix en fait, d'appliquer avec effet immédiat certaines des prérogatives, certaines des idées. Et celle-là, on l'a trouvée bonne. Aujourd'hui, à ma connaissance, sur la Nouvelle Aquitaine, en effet, on est les seuls à l'avoir mis en place. Mais ça peut être mis en place assez facilement, hein, je pense. Mais aujourd'hui, on a fait le choix, en effet, nous, d'investir sur un carton bleu pour que ça soit visible également de tout le monde et que ça ne soit pas un simple signe de bras ou autre, comme c'était préconisé dans le projet fédéral. Là, on a fait le choix de le matérialiser par quelque chose de visible également pour les supporters et les spectateurs et les bandes touches. Voilà.
Quels sont les objectifs principaux fixés par le district, que ce soit au niveau sportif, mais aussi au niveau de la structure?
Par rapport à quoi?
Structurel, c'est-à-dire quelles vont être les nouveautés au terme de quels sont les objectifs que tu te fixes, toi, pour cette nouvelle année, sur la partie sportive, mais aussi sur la partie de l'organisation.
L'organisation aujourd'hui, c'est de maintenir nos finances. Hein. En l'espace d'un an, on a rétabli les comptes du district. On a fait en sorte aujourd'hui de mettre en place un fonds de soutien pour les clubs, justement pour les accompagner dans divers achats qu'ils peuvent avoir du quotidien. Voilà, on a
plus de 100 000, hein, je crois, au niveau des finances.
Oui, on a en effet aujourd'hui, de par nos partenariats, les bonnes relations avec la Ligue, avec une réduction des coûts structurels de fonctionnement du district, ça nous a permis aujourd'hui de remonter une épargne qui était aux alentours des 135 000 euros avant mon arrivée. Aujourd'hui, on est à quasiment 250 000 quasiment. Mais pourquoi ? Ben parce qu'il nous fallait en fait un fonds de roulement d'avance comptable qui nous permette aujourd'hui de pouvoir aider les clubs. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place immédiatement le fonds de soutien. On a mis en place une baisse financière des différentes sanctions sur les dossiers disciplinaires notamment, pour impacter à terme de moins en moins les clubs. On fera encore mieux certainement l'année prochaine. On y va pas à pas, puisqu'il faut quand même assurer la pérennité de la structure. Alors ensuite, on a le volet foot, bien évidemment. On a intégré un jeune en apprentissage dans le cadre d'un partenariat avec l'Association française de football en marchant, avec une volonté de football pour tous. Donc on a Anton qui est arrivé dans nos murs au début septembre et qui aujourd'hui va avoir pour vocation à promouvoir la pratique et accompagner la pratique sur le foot en marchant. Aujourd'hui, on a un nouveau mode de fonctionnement hein, sur l'arborescence des montées et des descentes, justement avec des play-offs. L'été prochain, si tout se passe bien, on va créer des matchs de gala avec une soirée des champions qui verra et qui permettra d'opposer le vainqueur de la Coupe de Dordogne contre le champion de D1, le vainqueur de la
Coupe... Un genre de All-Star.
Ouais, un peu, ouais, exactement. Le vainqueur de la Coupe de District qui sera opposé au champion de D2 et le vainqueur de la série pub face au champion de D3. Voilà, l'idée, c'était de valoriser et puis de pouvoir lancer la saison comme ça. Donc, c'est ce qu'on va mettre en place pour la saison prochaine. Là, on a toujours le meilleur buteur. Et puis ensuite, c'est au niveau de la pratique des jeunes, hein, où aujourd'hui, on va être très, très attentif, surtout au volet sociétal et comportemental, que ce soit des éducateurs et des parents sur les bords de terrain, avec une vraie volonté aujourd'hui, avec des observateurs de plateau qui sont anonymes et qui iront voir les rencontres pour voir si ça se passe bien, et notamment sur les catégories 9, 11, 13, où on sait que souvent on a des problématiques de comportement.
C'est dingue de voir ça.
C'est dingue de voir ça, sauf qu'il faut prendre le sujet très au sérieux, ouais, parce que c'est un phénomène de société. Et le football ne peut pas se cacher en disant oui, mais c'est à l'image de notre société, ben on fait rien. Bah non, justement. On est la plus grosse fédé, avec le plus grand collectif, en tout cas, avec le plus grand nombre de licenciés. Sur le département aussi, on a plus de 14 000 licenciés, quasiment 14 200. La moindre des choses, c'est de faire le job et d'apporter des solutions concrètes au quotidien.
Sur les jeunes, vous allez organiser la deuxième édition du festival des U12.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Bah pareil, hein, là aujourd'hui, c'est pour permettre de la détection et surtout permettre à des gamins qui sont peut-être un peu éloignés de très grands clubs de justement pouvoir participer à un événement départemental sous l'égide du district.
Ouais.
Et donc, on a fait, comme l'an dernier, on va le remettre en place cette année avec des sélections départementales par Périgord. La sélection donc, du Périgord blanc, du Périgord vert, du Périgord pourpre, du Périgord noir, et qui vont s'affronter sur une journée finale. Toute la partie sélection, détection, il y a les deux clubs de Trissac et Bergerac n'en font pas partie.
D'accord.
Parce qu'on veut vraiment laisser la place en fait à tous les autres clubs qui sont dits moins d'élite peut-être.
Ouais, bien sûr.
Et de se retrouver par contre sur une journée finale où là on conviera bien évidemment Trissac et Bergerac à participer à cette journée finale. Mais oui, on va le reconduire parce que c'était une réussite l'an dernier et c'était un chouette moment de voir des gamins, par exemple Périgord Noir. Il y avait un gamin qui jouait à Campagnac d'Aglan qui, peut-être en temps normal, n'aurait peut-être pas été repéré par l'équipe technique départementale. Et ça, ça l'a permis. Donc, c'était aussi une belle aventure. Laissez la chance à tout le monde.
Laissez la chance à tout le monde. Ça, c'est un beau message. Il y a des réactions. Benjamin Perrault, merci. Jonathan Blondy, un vrai président, un super garçon. Continue comme ça. Sylvain Duru qui nous dit une belle initiative, ce carton bleu. Vive le district du football de la Dordogne. Et un très bon district avec un super président. Voilà. Non,
mais ça fait plaisir, merci beaucoup.
Les commentaires sont au rendez-vous, monsieur Blondy.
On peut pas plaire à tout le monde. Je sais que parfois je peux être clivant parce que j'ai une certaine franchise et je passe pas par quatre chemins pour dire ce que je pense. Mais je prends sur moi peu à peu pour essayer d'arrondir un peu plus les angles. Mais au moins, voilà, je pense que je suis un président de district honnête et franc et dans mes prises de parole aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait de doute possible sur les intentions, c'est de développer le football départemental, structurer le district, mais surtout accompagner nos clubs dans le développement de la pratique, et quelle qu'elle soit, garçons, filles, jeunes et personnes en situation de handicap et inclusion.
Les formations pour les bénévoles et éducateurs sont renforcées. Comment le district accompagne-t-il concrètement les clubs et leurs encadrants ?
Aujourd'hui, on a tout un programme de formation qui a été mis en place et publié pour l'ensemble des clubs, avec une vraie volonté, c'est de délocaliser dans les clubs, donc d'en faire le moins possible au district. Donc aujourd'hui, mon équipe technique avec Eric Sénéchal et Jocelyn Chubillot et l'ensemble de la commission technique, c'est vraiment d'aller dans les clubs pour faire les formations. Aujourd'hui, on est en train de... On a créé notamment un... Cette année, on a fait le choix de créer une sorte de label hein, départemental, mais qu'on n'appelle pas label, hein, c'est l'école de foot diplômante, avec les clubs qui vont vouloir s'engager sur un parcours de formation qui permettra en fait de justifier de la formation de leurs éducateurs en U7, U9, U11, U13, qui est notre priorité aujourd'hui absolue. C'est d'avoir des éducateurs diplômés sur ces ou formés, hein, je ne dis pas forcément d'avoir le BMF, etc., mais c'est d'avoir la base de leur catégorie en tout cas. Donc on a mis en place ce programme-là avec un statut des éducateurs pour les écoles de foot qui ont été votés par les clubs sur la proposition de la commission technique au mois de juin. Mais ça va être... dans le temps, c'est sur 3 ans jusqu'en 2028. Ouais, donc ouais. L'idée, c'est qu'en fait, c'est qu'on amène les clubs à comprendre qu'aujourd'hui, la formation des jeunes passe par des éducateurs qui sont formés et en capacité de pouvoir encadrer. Et à cela, du coup, on est en train de travailler. Alors, ça sera une surprise pour vous, mais pour nous, c'est une demi-surprise parce qu'on y travaille depuis quelques mois. L'idée, c'est qu'on arrive à mettre en place un budget départemental permettant d'accompagner et de faire des bons de formation pour les clubs qui voudront s'engager dans la démarche de structuration de leur école de foot et de formation de leurs éducateurs. Donc quand par exemple il y a un reste à charge qui est de 20 ou 30 euros pour un éducateur sur une formation,
ça serait pris en charge par le département
et par le district.
Par le district, ouais, d'accord. Voilà. D'accord.
Donc, on est en train de travailler sur le sujet. Alors ça sera certainement un fonctionnement d'enveloppe, hein, et puis une fois qu'elle sera épuisée, elle sera épuisée.
Bien sûr.
Mais si déjà on arrive à mettre 2-3 000 euros et à coût de 20 ou 30 euros de bons de formation pris en charge par le district, on va en former beaucoup d'éducateurs sur le département et l'excuse du coup financier n'en sera plus une du coup.
Ouais, ouais. Un petit rappel sur le fonds de solidarité que tu as mis en place.
Oui, l'idée c'est que les clubs avaient jusqu'au 1er août pour déposer un dossier. On finançait, hormis les clubs qui avaient déjà eu une aide via l'ANS, l'Agence nationale du sport, puisque c'est nous également qui l'avons attribué, on a fait le choix en fait de leur proposer, de les accompagner sur un projet vital pour le club, un projet pédagogique. Alors il y a certains, par exemple je prends le club de Petit Bersac, je prends le club de La Chapelle Fauché, qui ont leur propre tracteur tondeuse pour tondre leur pelouse.
D'accord.
C'est pas un travail qui est fait par la mairie.
Ouais.
Par exemple ils avaient besoin de changer leur tracteur tondeuse pour pouvoir tondre leur terrain, c'était vital pour le club. Donc on a fait le choix d'accompagner ce type de dossier, les mini-buts pour le foot à 5 et le foot à 8 pour les écoles de foot. Voilà, on a fait le choix d'accompagner à hauteur de maximum 500 euros.
Ouais.
Ça, c'était le plafond, mais on ne dépassait pas plus de 50% de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui nous demandaient par exemple des tablettes, parce qu'on arrive en fin de course des tablettes qui étaient fournies il y a 10 ans.
Ouais.
Et ben là, c'est de dire, ben voilà, vous en avez pour 300 euros, ben on prend en charge 150 euros. Voilà.
Okay.
Et s'il y en avait pour 3000 euros, le projet, ben on faisait pas plus que 500.
D'accord.
Et aujourd'hui, on a financé un peu plus de 13 000 euros de dossiers pour de mémoire 35 clubs, puisqu'il y a deux clubs qui étaient en retard. Donc on a aidé 35 clubs sur le département à hauteur de 13 000 euros. Et on va également accompagner dans le fonds de soutien, c'est une enveloppe qu'on a rajoutée.
Ouais.
Parce que bah, preuve que les finances du district sont saines, on a fait le choix également de rajouter une aide pour les clubs qui ont un service civique avec un reste à charge. On sait que le reste à charge est 400 euros à peu près par an maximum.
On met un petit coup de pouce.
Exactement, donc on a financé à hauteur de 200 euros, donc le 50% du reste à charge final. Voilà. Donc je pense qu'on a vraiment joué le jeu vis-à-vis des clubs pour le coup, et c'était important pour nous de leur dire, bah, voyez, on a... Peut-être que pendant un an, voilà, on a été drastique sur plein de choses. Nous, le district, on a réduit aussi le train de vie de plein de choses. Mais c'était au profit des clubs. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on reste 100% bénévole au district.
Hein, voilà, donc, ça c'est toujours important de le rappeler. Vous avez lancé un appel à projet, Toute Foot. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce dispositif et qu'est-ce que vous en attendez ?
Toutes les idées, innovations pour promouvoir le football féminin et la place des femmes. Donc c'est un projet fédéral mené par la Fédération Française de Foot avec un jury départemental, régional puis fédéral. Aujourd'hui on espère que les clubs vont être novateurs sur le sujet. Si on crée le club des dirigeantes justement, c'est parce qu'on a cette volonté justement
de faire avancer les choses
et de libérer et de donner de la place tout simplement à nos féminines. Nous au comité directeur aujourd'hui on a 9 femmes sur 26. À terme j'espère qu'on pourra augmenter peu à peu, ou en tout cas j'espère que mes prédécesseurs et mes successeurs pardon qui suivront dans les prochains mandats auront cette volonté de peu à peu d'arriver à un équilibre, mais un équilibre de compétences.
Des nouveautés en termes du foot féminin ou pas ?
Foot féminin, ben aujourd'hui, alors sur le foot à 8, on n'a pas de problématique particulière, sachant que la nouveauté sur le foot à 8, en l'occurrence, c'est d'avoir mis en place des niveaux comme chez les garçons, donc ouais. Première division, deuxième division, et d'avoir un système ben, de montée et de descente, comme chez les garçons, alors que les années précédentes, historiquement, ben, au mois de septembre, on remettait tous les compteurs à zéro et on repartait sur du brassage.
Brassage,
donc là, l'idée, c'est que ben, pour, plutôt que d'éviter à des débutantes d'entrer, de jouer contre une équipe expérimentée et d'en prendre 20, ben, l'idée, c'est de dire ben, maintenant, on va faire par niveau. Voilà, et en fin d'année, ben, la dernière de D1 descendra en D2 et la première de D2 montera en D1, etc. On va avoir 4 rassemblements 100% féminins sur la saison, sur les petites catégories, ouais. Donc 9, 11, 13, parce que l'objectif c'est qu'elles puissent se réunir entre elles. Voilà. On va avoir la journée nationale des débutantes 100% féminine cette année, donc on aura la 100% garçons et de l'autre côté la 100% féminine.
Féminine,
voilà. Donc ouais. Ça aussi c'est une nouveauté. Concernant le foot à 11, c'est plus délicat. Donc on a fait le choix en fin de semaine dernière, compte tenu des nombreux forfaits qui ont eu lieu en foot à 11. On a fait le choix, bah, comme c'était, on n'a plus qu'une poule de 4 maintenant, donc ouais. Pour terminer la saison, heureusement qu'on ne fait pas que match aller-retour. Donc on a fait le choix de faire une double confrontation, match aller-retour. Donc ça veut dire qu'elles vont jouer...
À l'écossaise.
Ouais, exactement. Ouais. Donc elles vont jouer en fait 4 fois entre elles.
Okay.
Mais ça va nous permettre au moins d'assurer bah, du coup 12 matchs minimum, ouais. Plus la Coupe de Dordogne qui va être faite cette année de manière novatrice avec une sorte de phase de poule en mode un peu Ligue des Champions. Phase de poule, et ensuite on sortira les 4 meilleures équipes pour faire demi-finale et finale.
D'accord.
Donc voilà, on essaie d'innover pour que la pratique à 11, mais je pense que sur le foot à 8, on a un travail à faire aujourd'hui pour les pousser à aller vers
aller
le foot
vers
à
11. Foot à
11. Parce que quand,
enfin,
on, voit,
structuration,
quand on voit des clubs de foot à 8 aujourd'hui qui ont 20 licenciés,
oui.
Ça m'embête un peu qu'elles ne soient pas sur le foot à 11.
Je veux bien comprendre. La rencontre, du coup, club-arbitre, elle est prévue ?
Elle a eu lieu.
Elle a eu lieu,
elle a
ouais.
eu lieu lundi soir, en même temps que la plénière des RTJ.
Qu'est-ce qui nous ressort de ça ?
Du dialogue, du dialogue, du dialogue. C'est, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. De la fermeté sur les incontournables et sur les impondérables de la fonction, mais surtout du dialogue entre les différentes parties, entre joueurs, entre arbitres et éducateurs. Et aujourd'hui, il faut absolument que ces trois parties prennent conscience que c'est main dans la main qu'on fera en sorte que tout le monde comprendra le sens donné à tout ce qui est mis en place depuis plusieurs mois, parce que cette année, il va y avoir, on a annoncé, hein, il va y avoir les oreillettes pour les arbitres en D1. Mais
ça a commencé là.
Ça a déjà commencé, exactement.
Sûr.
Et au-delà de ça, sur les oreillettes, c'est que c'est pas que pour la D1, hein, c'est aussi pour l'accompagnement des nouveaux arbitres, pour que l'accompagnateur qui est sur le bord du terrain puisse justement dire à un moment donné, bah, attention, là t'es mal placé, là faut que tu ailles plus près, là faut que tu sois un peu plus loin, là il faut que tu tendes mieux ton bras, la gestuelle, c'est ça. L'idée en fait, c'est de suite sécuriser et de rassurer les nouveaux arbitres qui vont arriver dans la fonction.
Est-ce que ça peut pas déstabiliser l'arbitre ça, quand
non,
on lui parle dans l'oreillette?
Non. Non, du tout. Non, au contraire, ça va permettre justement de guider en direct. Quand un observateur ou un accompagnateur à la fin du match dit, tu te rappelles, à la 45e, tu t'es déplacé comme ça et comme ça, l'arbitre, il l'a plus en tête,
oui.
C'est impossible.
Ouais, complètement.
Donc là, l'idée, c'est de corriger
de suite.
On est sur
du direct.
On va avoir les caméras embarquées sur les matchs dits sensibles, puisqu'on a eu la bonne nouvelle d'apprendre par Anthony Gauthier la semaine dernière que finalement, on était également choisi comme district pilote au même titre que 14 sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc on est plutôt content de faire partie du projet. Donc voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place aujourd'hui pour
la
faciliter.
Du coup, pour après les commissions de discipline ou juste
non,
pour analyser
alors, les oreillettes, il n'y a rien d'enregistré pour le coup.
Ouais.
C'est juste pour permettre une meilleure fluidité des prises de décision sur les trios en D1, puisque c'est trois arbitres officiels. Concernant la caméra, c'est différent. C'est en effet sur les matchs sensibles, c'est d'être en capacité de pouvoir uniquement être en situation de filmer les moments de tension, c'est-à-dire notamment les incivilités. La caméra ne permettra pas, par exemple, au pôle arbitrage de dire bah « là, il y a faute, pas faute, etc. » Pas le volet technique, mais
d'accord.
Uniquement le volet mauvais comportement qui pourra avoir lieu.
D'accord. Ça y est, on arrive déjà à la fin de l'émission. C'est passé
déjà
super vite.
Ouais, bon, mais désolé, j'étais bavard en plus. Hein.
Il n'y a pas de souci. C'est le moment de ta conclusion, Jonathan. S'il y a des choses qu'on n'a pas dit, c'est pour toi. C'est ta minute.
Merci d'abord de nous avoir donné un petit peu de temps pour lancer la saison. Aujourd'hui, on a la volonté, en tout cas, c'est qu'on travaille de travailler tous ensemble avec les clubs et une transparence la plus totale dans les décisions. Pour information, le prochain comité directeur aura lieu le 27 octobre et il aura lieu, il sera accueilli par le club de Montpont Futsal, donc sur la commune de Montpont. Donc ouvert au public, c'est ce qu'on dit à chaque fois, on n'a rien à cacher,
voilà.
Et aujourd'hui tous ceux qui veulent le bien du football départemental vous êtes les bienvenus.
Moi, j'y ai participé et c'est super intéressant. Si vous savez pas ce que c'est, ben allez-y. Du coup, tu me dis, c'est à Montpont.
À Montpont, le lundi 27 octobre à 19h30.
Voilà. Merci à toi, Jonathan.
Avec plaisir.
Bonne route pour la suite. En plus, il est venu exceptionnellement ce soir. Normalement, il devait être au comité.
Comité directeur de ligue, en effet. Mais je m'étais engagé et je tiens toujours mes engagements.
Merci, président. Et je te souhaite une bonne soirée. Moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, on parlera d'athlétisme avec un certain Mathieu Bru, que tu connais d'ailleurs.
Oui, exactement. Saint-Geniès.
Ah ouais, exact. Exactement, qui est président aussi du club de Saint-Denis. Et il nous explique que le matin, il fait le trail et l'après-midi, il joue au foot.
Je sais pas comment il fait.
Et donc, on sera avec lui. Donc, merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.